France Culture.
Bonjour à tous et bienvenue dans Être et Savoir, le magazine de l'éducation de France Culture. Avril Ventura en assure la programmation, Perret Legras la réalisation et Élise Leu est à la technique aujourd'hui. Personne n'est nul en maths et on va vous le prouver avec le mathématicien Étienne Gys. Même ceux qui disent ne rien comprendre aux mathématiques manipulent chaque jour un système que personne ne connaissait au Moyen-Âge, par exemple. Écrire 203 avec ce zéro au milieu, c'est déjà assez complexe et l'héritage d'une longue histoire de la pensée humaine. Alors, peut-être pas personne au Moyen-Âge, mais très peu de gens. Dans votre dernier ouvrage, Étienne Gys, vous nous proposez de mieux comprendre le sens et l'histoire des nombres, de connaître leurs propriétés et de jouer avec eux. Son titre, Ma petite histoire des nombres. Bonsoir, Étienne Gys.
Bonsoir.
Et merci. Grâce à vous, je fais des maths depuis plusieurs jours, je révise des théorèmes, je multiplie en comptant sur mes doigts. Ça m'a vraiment fascinée, on va y revenir. Je m'intéresse aux multiples, aux suites mystérieuses. Et ça fait du bien. Ça fait du bien, une activité intérieure sans enjeu ni pression, l'abstraction comme distraction. D'ailleurs, je pense que ce livre devrait être vendu dans les gares car il fait un parfait compagnon de voyage. Pour ma part, il a enchanté quelques trajets en métro. Mais évidemment, les mathématiques, c'est aussi, surtout, une discipline scolaire associée à la sélection, à des résultats en baisse en France. À des réformes pédagogiques à venir. On va par exemple évoquer la méthode de Singapour. On ne sait plus trop où on en est, mais on va en parler. Et puis, une nouvelle épreuve du baccalauréat, c'est d'actualité. Enfin, la nouvelle épreuve anticipée de culture mathématique en première générale, ce sera pour 2027. Alors, de quelles mathématiques pourrions-nous rêver? On va en parler dans cette émission. Vous êtes mathématicien, ça on l'a dit, directeur de recherche émérite au CNRS, affecté à l'unité de mathématiques pures et appliquées. Vous dépendez aussi de l'École normale supérieure de Lyon et secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences. Vous avez publié « Ma petite histoire des nombres » en 2025 chez Audi Jacob, ainsi que plusieurs livres amusants comme celui consacré aux flocons de neige et au ballon de foot, mais qui était avant les nombres. Donc vous vous intéressez maintenant peut-être à l'essentiel. Les nombres, qui sont-ils? Quels sont leurs réseaux? On va en discuter ensemble. Vous commencez le livre en rendant un petit hommage à votre professeur de CM2, mais aussi en citant un poème de Victor Hugo, « Le calcul, c'est l'abîme ». Et c'est bien là le paradoxe des maths, c'est à la fois une source, même pour les mathématiciens, de plaisir. Et en même temps, vous êtes tout à fait conscient de l'angoisse que peut susciter la discipline et même les nombres chez pas mal de gens.
Oui, c'est ça la complication du problème, parce que, en effet, la plupart des gens disent qu'ils n'y comprennent rien, qu'ils ont toujours été nuls en maths à l'école. Et puis, en fait, il y a une certaine fascination dans le public général. Comme vous venez de le dire vous-même, hein, il y a une espèce d'attirance pour ces nombres. Par exemple, moi, je reçois très souvent des courriers de mathématiciens amateurs qui me disent avoir fait une découverte, la plupart du temps un peu simplette.
Hein, pour
et vous. Oui, pour moi, et parfois fausse, ou parfois en ayant guerre de sens. Tout ça, ça m'amuse et ça m'intéresse parce que il y a une fascination pour les nombres dans le public général.
Est-ce que vous êtes d'accord avec moi si je vous dis que c'est quand même une activité un peu gratuite de l'esprit? Après tout, il n'y en a pas beaucoup. Et que quand on fait des mathématiques, quand on manipule, alors je sais pas, parce qu'on ne sait pas à quel moment ça devient vraiment des mathématiques et à quel moment on est mathématicien d'ailleurs, et jamais je dirais ça de moi par exemple, mais quand on manipule des chiffres dans sa tête, on est dans une autre forme d'intériorité.
Oui, alors il y a deux choses à dire. D'abord, il faut dire que il y a beaucoup de manières de faire des mathématiques. Ça peut être des mathématiques qu'on appelle parfois pures, c'est-à-dire qui, comme vous le dites, qui discutent un peu du plaisir, de l'abstraction. Et puis, il y a aussi des mathématiques plus appliquées, plus directement concernées avec des choses de la vie de tous les jours. Et cette histoire, ce balancement entre ces deux perceptions des maths, c'est très, très ancien. Ça remonte vraiment à l'Antiquité. Souvent, je dis, d'un côté, il y a Archimède, le grand Archimède qui quand même fabrique des armes de guerre. Et puis de l'autre côté, il y a Euclide qui discute de géométrie sans la moindre application pratique. Ces deux aspects des mathématiques sont tous les deux importants et c'est important de ne pas trop les séparer.
Et vous nous rappelez aussi dans Ma petite histoire des nombres que les mathématiques sont pas si ancien dans l'histoire humaine. Enfin, on a peu de moyens de le savoir, mais on n'a pas toujours compté. On n'a pas d'ailleurs la masse des personnes n'ont pas toujours eu accès au calcul avec les dizaines, les centaines, les milliers tels qu'on l'apprend à l'école, et que même, eh bien, si on regarde, on regarde l'histoire humaine, l'Antiquité grecque, finalement, c'est plus proche de nous que le oui. Paléolithique.
Oui, mais il faut quand même faire attention parce que les mathématiques commencent, on ne sait pas trop quand, mmh. où, et puis le berger qui compte ses moutons. Qui ne sait peut-être pas écrire des chiffres avec des décimales, etc. C'est un mathématicien aussi. Hein. De la même manière que aujourd'hui, si vous me demandez combien il y a de mathématiciens en France, je vais vous dire, ça dépend. Est-ce qu'on compte tous les profs de maths? Est-ce qu'on compte les universitaires? Est-ce qu'on compte les chercheurs? Est-ce qu'on compte tous ceux qui savent compter? Tout ça est un peu difficile à définir.
Et vous comptez les profs de maths, du
coup? Oui, oui. Un prof de maths est un mathématicien, que voulez-vous?
Alors, on compte sur 10 parce qu'on a 10 doigts.
Voilà. Mais alors, je raconte dans mon livre que c'est pas évident pour tout le monde. Hein. Vous le saviez, vous?
Pas du tout. Voilà. Racontez aux auditeurs.
Je trouve que c'est intéressant parce que je raconte dans ce livre que c'est un souvenir très précis d'un de mes amis qui a eu 2-3 ans plus tard la médaille Fields, carrément. Je lui dis ça en passant, qu'on compte en base 10 parce qu'on a 10 doigts. Il ne me croyait pas. Et puis finalement, je n'en reviens pas qu'il était à ce haut point dans la recherche mathématique, il n'avait jamais pris conscience du fait que la base 10, c'est parce qu'on a 10 doigts, tout simplement.
Mais certaines populations comptent les écarts entre les doigts et du coup, en base 4, alors c'est très très peu de personnes à travers le monde.
C'est une tribu indienne quelque part en Californie. Mais il y a beaucoup de sortes. Hein. Il y a aussi beaucoup de peuples primitifs qui comptent en base 20 parce qu'ils utilisent les doigts de pied aussi.
En basket, base 20, ça donne pas du tout la même manière de représenter le
ça
nombre.
Ça donne une version, une vision différente du nombre, tout à fait.
6 fois 8.
6 fois 8, 48.
Mais vous avez répété 6 fois 8, donc vous avez pris une demi-seconde pour réfléchir. Vous avez eu un petit souci avec la table de 6?
Oui, je raconte cette anecdote parce que je trouve que c'est bien de raconter les émotions qu'on peut avoir même à l'école primaire. C'est une anecdote qui m'est arrivée quand j'étais en CE2. La maîtresse avait demandé qu'on apprenne la table de multiplication par 6, et puis elle a demandé devant tout le monde, et je ne la connaissais pas. Et je me suis fait attraper très fort, et la maîtresse m'a condamné, entre guillemets, m'a puni, en me disant que je n'irais pas à la récréation, et que j'apprendrais la table de 6 pendant la récréation. Alors, pendant la récréation, j'avais ce sentiment extrêmement mitigé. D'un côté, j'en voulais énormément à la maîtresse. D'un autre côté, je m'en voulais beaucoup à moi-même. Et je me suis dit, écoute, t'as un quart d'heure pour apprendre la table de multiplication, et tu vas le faire. Et je l'ai appris, et maintenant je la connais vraiment par cœur. Mais, j'en veux encore un petit peu à cette madame Bétins qui m'a puni.
Ça aurait pu provoquer un blocage, vous pensez?
Ça aurait pu.
Qui viennent de...
J'en sais rien, mais conflits. Je pense que c'était pas une bonne idée de me punir comme ça.
Moi non plus, je pense que c'était pas une bonne idée. Est-ce qu'il y a des tables de multiplication qui vous semblent plus compliquées que d'autres? Est-ce que c'est par exemple normal de pas être super à l'aise avec la table de 8?
Mais bien sûr, bien sûr. Alors je crois que je le dis quelque part aussi, moi en ce qui concerne la table de 8, mais il faut pas le dire, vous le répéterez à personne.
À personne.
La table de 8, j'ai toujours dans ma tête l'idée de, je commence par multiplier par 4, puis après je multiplie par 2. C'est plus facile pour moi.
Décomposer, c'est pas idiot.
C'est pas idiot. Chacun
fait des petits calculs.
Chacun a ses propres stratégies et puis ça rajoute un peu de fun dans l'histoire, quoi.
Alors, il y a des stratégies beaucoup plus compliquées qui sont décrites comme celles, bien des critères de divisibilité.
Ok. Critères de divisibilité. Niveau collège. Ok. Si on pose la division euclidienne d'un nombre entier par un deuxième nombre entier et que le reste est nul, ou si on pose la division décimale d'un nombre entier par un deuxième nombre entier et que le quotient n'a pas de virgule, on dit que le deuxième nombre est un diviseur du premier, ou bien que le premier nombre est un multiple du deuxième. Si on te pose la question 60 peut-il être divisé par 4, tu poses ta division et tu conclus sans problème. 60 divisé par 4, ça fait 15, pas de reste, donc 4 est un diviseur de 60. 50 divisé par 4, ça fait 12 et il reste 2, donc 4.
4 n'est pas diviseur de 50. Pour savoir si le nombre entier est divisible par un autre, tu poses ta division et tu regardes si le quotient est entier. Quelques cas particuliers que tu dois connaître sans faute. De 3 exos, tu comptes même plus le temps que ça t'a fait gagner. Pour savoir si tu peux diviser l'entier par 2, par 5, par 10, tu n'as qu'à regarder le dernier de ces chiffres. Pour savoir si tu peux diviser un entier par 9 ou par 3, tu n'as qu'à additionner tous ces chiffres et tu sauras. T'es pas obligé de poser une division.
Alors, si on additionne tous les chiffres d'un nombre en centaines ou en milliers, on sait s'il est divisible, par exemple, 200. Du coup, j'ai plus mon exemple. 279,
oui.
C'est forcément...
279, bah, 2 plus 7 plus 9, ça fait 18. 18 divisé par 3, donc c'est divisé par 3.
Donc c'est bon.
Voilà. Mais j'aime bien qu'on ait écouté ce rappeur, parce que je l'ai rencontré encore une fois la semaine dernière. Et c'est un professeur de collège qui a un énorme succès parmi les collégiens. Et ce que j'aime bien en lui, c'est que...
On peut redire son nom, Arieka.
Arieka. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il est un très bon pédagogue. Il dit très clairement qu'il ne va pas apprendre les maths comme ça. Mais c'est un moyen, d'une part, de décomplexer les enfants. Et puis aussi, c'est un moyen de, comment dire, de réviser. Voilà, d'associer la musique aux tables de multiplication ou aux mathématiques. Et d'ailleurs, je cite dans mon livre un musicien au 19e siècle, qui avait mis en musique les tables de multiplication, et il paraît que c'était appliqué dans toutes les écoles de Paris. Comme quoi on peut apprendre aussi les tables de multiplication en les chantant, tout simplement.
Bon, c'est un peu comme ça que beaucoup de monde ont appris, mais si c'est a appris, même si c'est toujours la même chanson. Moi, j'ai une petite musique de nanana, nanana. Et on peut évidemment apprendre cette table de multiplication. On y revient, regarder des vidéos. Alors, Arieka, c'est génial parce que quand on regarde la vidéo, il est avec son tableau. Donc, sur Pythagore, on voit bien le triangle. Il explique comment le dessiner, comment on peut avoir tous les points à son contrôle. Vous nous parlez de plein de manières dont les êtres humains ont pu manipuler les chiffres, s'interroger sur les nombres, parce que les nombres et les chiffres, c'est pas la même chose. Bon, on voit bien que je suis pas prof de maths.
Peut-être que je peux vous raconter une anecdote.
Et s'amuser avec ça.
J'ai participé à cette petite émission de France Inter qui s'appelle Les Petits Bateaux.
Oui.
Vous savez, c'est un enfant qui pose une question. Et il y en a un qui n'est pas encore paru, je trouve très, très, très sympa. C'est un enfant de 6 ans qui me pose la question suivante. Comment il a fait celui qui a inventé les nombres? Car il sait bien que les nombres, ça ne s'arrête pas, alors que lui, il va mourir. Vous voyez, à 6 ans, il me pose une question philosophique, carrément. Le conflit entre l'infinité des nombres et la finitude des chiffres. C'est tout à fait intéressant. Les enfants sont fascinés par les nombres, dès le plus jeune âge.
Et par l'infini.
Et par l'infini. Quand un enfant découvre que la suite des nombres ne s'arrête pas, souvent ils en sont perturbés.
Et en avant et en négatif.
En négatif, tout à fait.
Le futur et le passé. Et ça me donne des vertiges d'enfant. Enfin, il remonte quand j'en parle.
Vous avez raison, le mot c'est vertige. Ça donne l'impression d'une... L'infini donne une forme de vertige, tout à fait.
Il y a ce vertige qui est lié aux mathématiques, et puis il y a tout ce côté aussi très pragmatique, parce que ces nombres, ils existent. Un nombre, c'est une quantité. C'est peut-être aussi important de se le représenter. Je crois que c'est l'acquisition du nombre, et on va y revenir, elle ne se fait pas forcément. Et donc, on peut avoir des trucs assez rigolos, vous en décrivez un. Alors moi, j'ai pris les exemples les plus simples du livre. Pour faire ces fameuses multiplications, on peut utiliser ses doigts. Et par exemple, quand on fait, et là, c'est très très difficile à décrire à la radio, mais je prends l'exemple de la table de 9, il suffit, donc 3 fois 9, il suffit de plier son troisième doigt, et d'un côté, on a 2, et d'un côté, on a 7.
Voilà, on met les deux mains à plat sur la table, il y a donc 10 doigts, on plie le troisième, et à gauche, il y en a 2, à droite, il y en a 7, 3 fois 9, 27.
Et vous pouvez essayer chez vous, donc si on plie le quatrième doigt, ça fait 36, etc. Et bon, finalement, ça va plus vite de connaître la table de 9, elle est assez... Enfin, moi, je la trouve assez simple, parce que j'enlève le chiffre par rapport à la table de 10 aussi, des choses comme ça. Mais c'est très amusant, et on peut aussi faire toutes les multiplications passées 9 en... pliant, c'est avec des dizaines et des unités, ça marche pas mal.
On peut tenter de l'expliquer à la radio, ça va pas être facile. Mais ce sont des pratiques qui remontent pour le coup au Moyen-Âge. Les marchands, dans les marchés, utilisaient leurs doigts pour faire leurs calculs. Et les deux exemples que vous venez de citer, ce sont des très très anciennes méthodes qui remontent vraiment au Moyen-Âge.
Mais je laisse les lecteurs le trouver dans le livre pour les étapes de 6, 7 et 8. C'est assez fascinant. C'est assez fascinant aussi de voir que des gens trouvent toujours cherchent et trouvent des solutions mathématiques qui correspondent à leur vie. Finalement, c'est ça aussi, faire des maths.
Exactement.
Est-ce que vous connaissez cette expérience décrite par Esther Duflo? C'est un récent article du Monde qui racontait que des petits vendeurs en Inde, donc ce sont des métiers informels, étaient extrêmement forts en calcul. Plus forts que certains élèves de leur âge qui avaient, eux, la chance et le droit, qui est un droit, d'aller à l'école. Mais que quand on essayait de reconvertir ce talent, ces compétences de calcul dans une classe, on n'y arrivait pas. Et quand on demandait aux élèves de faire des calculs dans le cadre d'un exercice
du quotidien,
c'est parce que ce sont souvent des règles de trois, donc parfois c'est difficile de les faire de tête entre, je parle, un kilo d'aubergine, un kilo de courgette, je ne sais pas exactement quel légume vendent ces vendeurs, qui ne sont pas au même prix, etc. 600 grammes, 500 grammes. Et quand on a la pratique, ça va très vite. Comment vous expliquez ce décalage entre... Parce que c'est ce qu'enregistrent aussi, finalement, les enquêtes internationales sur les mathématiques. C'est particulièrement fort en France. Un décalage entre ce qu'on peut savoir dans la vie et ce qu'on peut savoir en classe. Ou plutôt, ce qu'on a plutôt bien appris en classe. Parce que même si on n'est pas fort en maths, on peut avoir des savoirs. Et puis, on a du mal à les reconvertir.
Alors moi, je serais prêt à généraliser votre remarque à d'autres activités humaines, que ce soit la lecture ou toutes les connaissances qu'on apprend à l'école, eh bien, le jour où on en a vraiment besoin et que c'est un plaisir de les utiliser, eh bien, on les mémorise immédiatement et sans la moindre difficulté.
Est-ce que ça vaut pour cette question qui a été posée récemment à des élèves? C'est une étude du Conseil scientifique de l'éducation nationale. En tout cas, c'est le Conseil qui a divulgué cette étude. Combien y a-t-il de quart d'heure dans trois quarts d'heure? 50% des élèves de 6e ne sauraient pas répondre.
Alors, je connais cette remarque, ça m'agace un peu, je vais vous dire très sincèrement. Parce que je trouve...
Je veux bien m'agacer avec vous.
On va s'agacer tous les deux. Parce que d'abord, c'est agaçant, en effet. Ça prouve que l'élève n'a pas compris que... Trois quarts d'heure, c'est trois quarts d'heure.
Ah, mais ça dit autre chose.
Mais ça dit beaucoup d'autres choses. Et ça dit surtout que l'élève doit être surpris par la question et un peu le sentiment qu'on est en train de lui tendre un piège. Et que s'il ne répond pas, c'est peut-être parce qu'il dit « Mais qu'est-ce qu'elle veut que je dise, la prof ?» Vous ne croyez pas ?
C'est le syndrome de l'examen du code au permis de conduire.
Exactement. C'est bien possible. Donc ça, c'est une première chose. Vous savez, par exemple, si vous faites une enquête dans la population française, selon vous, quelle est la proportion de gens qui ont compris que 97, c'est 4 fois 20 plus 10 plus 7? Est-ce qu'on n'a pas appris que 90, tout le monde y pense comme étant 90, mais on n'a pas dit que c'est 4 fois 20 plus 10? Vous le découvrez maintenant ?
Pas du tout. Mais ça, c'est un problème de conscience de ce que c'est que un nombre... Une quantité et qu'on peut le décomposer.
Tout à fait.
Est-ce que c'est aussi un problème de la manière dont on compte dans la langue française? Parce que ça, c'est souvent dit.
Tout à fait.
Et vous en parlez dans le livre. Les Allemands ont une autre manière de poser les chiffres. Mais par exemple, il paraît qu'en chinois, langue que je ne maîtrise pas, mais c'est beaucoup plus simple, la désignation des chiffres et des grands chiffres.
Alors moi, je raconte toujours justement, le maître que je remercie dans ma préface. Je me souviens très très bien de sa leçon sur ça. Il avait dit, regardez, à Paris, il y a un hôpital qui s'appelle les 15-20, parce qu'il y a 300 lits. Et puis, il en avait profité pour nous apprendre l'orthographe pour les nombres, qui n'est pas si facile que ça. Hein. Et puis, il nous avait raconté exactement que la manière dont les nombres sont prononcés indique leur histoire. Qu'il y avait derrière 90, il y avait une longue histoire de la période où en France, on comptait parfois en base 20 et des choses comme ça. Et je trouve que c'était un bel exemple de pédagogie où le professeur peut mêler tous ces aspects de la connaissance.
Alors, on aime
Mais
bien...
Mais effectivement, je raconte aussi dans ce livre que le grand Condorcet, j'adore Condorcet, qui était quand même un grand, grand défenseur de l'éducation, un des grands penseurs de l'éducation. Il a été condamné par la terreur, condamné à mort. s'est caché dans une maison où il est resté quelques mois. Et puis, comme il était inactif dans cette maison, il a dit « je vais écrire un livre ». Et il a écrit un livre sur l'art d'enseigner les nombres aux enfants. Et dans ce livre, il a expliqué des méthodes, des nouvelles méthodes pour simplifier l'appellation des nombres. C'est assez magnifique que cet homme qui se savait condamné à mort, d'ailleurs il est mort quelques mois plus tard, qui se savait condamné à mort, a pensé tout d'abord aux enfants.
Mais vous, Étienne Gis, est-ce que vous pensez qu'on devrait dire 90?
Je ne sais pas, je dirais que non, puisque ça serait... Écoutez, il me semble que dans le problème de l'éducation en France, il y a peut-être des problèmes un peu plus sérieux que ça.
Mais avant d'encore revenir à l'éducation, j'ai une question plus globale. On dit qu'on vit dans une société du numérique, mais ça ne se rapporte pas vraiment au nombre, mais quand même. Une société basée sur des technologies mathématiques qui finalement deviennent de plus en plus abstraites. Ça ne nous a pas du tout rapprochés globalement des mathématiques.
Quand même. De manière inconsciente peut-être. C'est ce qu'on disait tout au début de cette émission. Les mathématiques, vous les utilisez tous les jours, tout le temps, sans même vous en rendre compte. Vous avez en permanence des tableaux, des graphes, des graphiques, des perceptions numériques que vous maniez et qui ne sont pas faciles du tout.
Je ne suis pas sûre qu'on ait des tableaux et des graphiques. Je crois qu'on voit plus des vidéos et des gens qui parlent. Et qu'on ne sait pas trop comment les outils qu'on manipule fonctionnent.
Bon, peut-être. En tout cas, ces vidéos, elles sont fondées sur l'informatique, sur des nombres, etc.
Totalement.
Bien sûr.
Et des systèmes de numériques qui sont très difficiles à comprendre, parce que la manière dont fonctionnent les ordinateurs, et d'ailleurs, vous en parlez aussi dans le livre, et c'est là où je décroche un peu, parce que finalement, comprendre le langage informatique, le langage binaire, c'est pas du tout évident, alors que tout ce qu'on fait repose... Enfin, pas tout ce qu'on fait, mais quand beaucoup. On travaille sur un ordinateur, qu'on manipule un téléphone, et ce langage binaire, je suis pas née il y a si longtemps, malgré mon grand âge, en tout cas, ça existait déjà quand j'étais élève, je me dis, ça, par exemple, c'est pas quelque chose que j'ai compris à l'école. On m'en a parlé.
On vous en a parlé ?
Oui.
Vous êtes probablement trop jeune pour avoir connu les mathématiques modernes. Il fut un temps où on parlait de ça dès l'école presque maternelle. Hein. On faisait jouer les enfants avec le système binaire. Incroyable, hein ?
Oui, mais ça n'a pas très très bien marché d'ailleurs.
C'était une catastrophe pédagogique.
Voilà.
Il vaut mieux oublier cet épisode calamiteux pour notre système éducatif.
Mais ça voudrait dire que les grands mathématiciens ne sont pas forcément les mieux placés pour... penser l'enseignement des maths ?
Je crois qu'on est bien d'accord. Hein. C'est dans toutes les disciplines. Le problème avec les mathématiques modernes qui ont été en place du côté des années 60, c'est qu'en effet, ça a été piloté par des très grands mathématiciens qui avaient des vues très générales et très, très magnifiques, mais qui n'avaient peut-être jamais vu un enfant.
Est-ce que... Une fois qu'on est passé à un certain degré d'abstraction mathématique, il y a quelque chose qu'on ne peut plus comprendre sur la manière dont fonctionne le cerveau des gens qui ne comprennent pas encore. Comme une fois qu'on sait lire, on ne peut pas s'empêcher de lire.
Oui, je dirais que ce sont deux activités différentes et qu'il est bon et important qu'une proportion des mathématiciens professionnels se consacre soit aux méthodes pédagogiques, soit didactiques. C'est important qu'il existe des mathématiciens qui soient spécialistes en didactique.
Voilà, être mathématicien et didacticien,
bien sûr, c'est très important.
Ça peut se rejoindre, mais c'est pas la même chose.
Moi, par exemple, je suis mathématicien plutôt spécialisé en géométrie en grande dimension. On n'est pas là pour en parler aujourd'hui, mais je ne me targuerai pas je ne suis pas un pédagogue.
Alors, qu'est-ce que vous faites en écrivant ce livre ? Quelle pierre vous apportez à la connaissance des maths ?
Et là, je ne me suis pas adressé à des enfants. Je me suis adressé à vous, à des gens qui ont peut-être perdu le contact avec les mathématiques et qui ont peut-être l'intérêt de renouer des liens apaisés avec les mathématiques. Je cherche des gens, des adultes, qui ont souffert à l'école, qui ont fermé la porte, je voudrais donner un petit coup sur la porte pour l'ouvrir à nouveau.
Et pour peut-être davantage parler des mathématiques dans la vie courante, le texte est accordé au féminin.
Oui, parce que vous le savez, nous le savons tous, pour une raison complexe et pas facile à expliquer si simplement, les filles n'ont pas le même traitement que les garçons dans l'enseignement des maths, ni à l'école primaire, ni même à l'université, et encore moins au niveau de la recherche. Dans mon milieu académique de recherche, les maths représentent environ 20% de la population. C'est une honte. C'est une honte.
Il y a 20% de mathématiciennes dans...
Voilà. Dans la partie recherche.
Dans la partie recherche, voilà. On dit qu'il y a 25% de filles dans les filières scientifiques, voilà. Post-bac, maths compris. On a vu aussi qu'avec la réforme du bac, il y avait un peu moins de... Enfin, beaucoup moins de filles dans les filières scientifiques, mais c'est resté assez stable du côté des études supérieures.
Oui, c'est encore un peu tôt pour en tirer des conséquences, parce que c'est relativement récent ce changement de structure du bac. Oui, oui, non, c'est un problème sérieux. Alors, je me suis dit, je vais écrire au féminin parce qu'il y a suffisamment de livres qui ont été écrits au masculin. Il est temps d'en faire au moins un au féminin.
Et puis, ça fait toujours plaisir, puis au bout d'un moment, c'est intégré, puis on y...
J'ai une collègue qui écrit des livres de maths et qui... À chaque fois qu'il faut accorder, choisis au hasard si c'est masculin ou féminin. C'est fait que le livre est un peu au masculin, un peu au féminin.
C'est pas très mathématique comme manière d'aborder la langue.
C'est très poétique. Voilà.
France Culture. Être et savoir. Louise Touré.
Quoi que les gens d'ici pensent. S'il n'est pas partout la même heure, il y a peut-être une chance que l'herbe soit plus verte ailleurs. Souvent tu attends la nuit quand plus rien ne fait mal et tu rêves que tu t'enfuis à la nage par le canal. Tu rêves d'un grand pays, d'une vie qui enivre, comme celle que tu lis dans les pages des livres. Il est temps de vivre. Allons voir ce que la vie nous réserve. Ce que la vie nous réserve. N'ayons peur de rien.
Chatterton dans Être et Savoir sur France Culture. Grand entretien avec Étienne Gis, mathématicien, auteur de Ma petite histoire des nombres. Dans cette émission, je voudrais prouver que personne n'est nul en maths, mais j'ai fort à faire parce que en France, le niveau des élèves baisse. Alors, il est globalement moyen selon l'étude PISA à 15 ans, mais avant, un petit peu avant, en 4e et en CM1, c'est pas génial.
La France consacre du temps à l'enseignement des mathématiques, plus de 1400 heures entre 6 et 14 ans, alors que la moyenne de l'OCDE est de 1100 heures. Le volume horaire de l'enseignement n'explique donc pas seul les résultats de la France en mathématiques.
On a des classes très chargées, on a des enseignants qui ont des conditions de travail qui sont difficiles, qu'il y a très peu de formation professionnelle et de formation continue. Donc, ils sont mal armés pour aider l'ensemble des élèves. On a des pratiques qui sont peut-être un peu verticales par rapport peut-être à d'autres pays où on va plus faire du soutien individuel. Voilà, donc il y a tout un tas de facteurs qui peuvent expliquer qu'on a plus de mal à aider les enfants en grande difficulté.
En septembre, des classes de primaire ont commencé à appliquer à l'enseignement des mathématiques la méthode Singapour, du nom de cette cité-État en tête de tous les classements. Une mesure qui sera pleinement appliquée dès la rentrée 2025, avec un objectif clair, réconcilier la France et les mathématiques.
Alors, on a entendu Mélanie Guénous, qui est présidente de la Société mathématique de France, dans ce sujet produit par France Info, dans sa rubrique « Le vrai du faux ». Étienne Gis, déjà sur ce niveau des...
D'abord, quelques remarques.
Tout ce que vous voulez.
Il y a une première remarque.
Je veux bien qu'on parle de la méthode de Singapour aussi.
Voilà, une première remarque, c'est que si on veut que ça marche mieux, il faut commencer par mieux payer les profs. C'est peut-être le truc principal. Les profs sont maltraités, on ne les paye pas suffisamment. Comment voulez-vous ensuite que que ça fonctionne correctement. La deuxième remarque, ça a été mentionné dans cette intervention, c'est qu'il faut bien entendu penser à la formation des profs initiale et continue. Pour la formation initiale, c'est pas facile non plus. Maintenant, une grande quantité de profs qui sont contractuels, beaucoup d'entre eux n'ont qu'une formation très faible en mathématiques. Et puis, ensuite, il y a la formation continue qui a été mentionnée aussi comme étant défectueuse. Et puis, enfin, il ne faut pas oublier que le problème principal commence à l'école primaire. C'est d'ailleurs dit dans cette intervention. Et à l'école primaire, comme vous le savez aussi bien que moi, 85 ou 85% des professeurs des écoles ne sont pas scientifiques. On fait des études littéraires pour l'essentiel. Et donc n'ont pas de formation mathématique et se retrouvent un peu désemparés, même avec des choses qui peuvent, moi, me paraître relativement élémentaires. Donc oui, il y a des problèmes très très sérieux. Je pense pas c'est qu'en brandissant le panneau Singapour, ça va résoudre les problèmes.
Alors, la méthode de Singapour, dont on a beaucoup dit, mais ce n'est pas encore vraiment le cas qu'elle allait être appliquée en France. Bah, déjà, on ne sait pas complètement ce que ça veut dire. Mais
je vais vous donner ma définition de la méthode Singapour.
Allez-y.
La définition de la méthode Singapour, c'est la méthode qu'on m'appliquait quand j'étais à l'école primaire, où les professeurs faisaient des travaux pratiques avec des allumettes, avec des bûchettes remplies du papier, où c'était extrêmement concret. Et effectivement, c'est probablement ça qui a été perdu, en gros, dans l'enseignement au fil des décennies. C'est qu'on a perdu le contact quasiment manuel entre les maths, le calcul et le concret. Voilà. C'est, à mon avis, c'est ça la chose principale. Dire aux enfants que quand on fait des additions, quand on fait des fractions, il faut prendre des barres de chocolat, les couper en morceaux, des tartes, etc. Tout ce qu'on apprenait jadis à l'école primaire et qu'il faut remettre au goût du jour de manière plus systématique.
Donc, manipuler pour passer à l'abstraction.
Voilà, voilà.
Mais on n'a pas forcément besoin de passer par Singapour.
Bah, c'est un peu pareil. Vous savez ce que c'est Singapour, vous ?
Bah, c'est un petit pays et puis il y a beaucoup de stress scolaire aussi.
Voilà. N'oublions pas non plus qu'à Singapour, les enfants sont soumis, comme vous dites, à un stress absolument impitoyable. Si à choisir où je mettrais mon enfant, soit en France, soit à Singapour, je choisis la douce France.
Ça, c'est intéressant. Alors, il n'y a pas que la manipulation. Il y a d'autres théories qui s'affrontent. Enfin, ce sont vraiment des théories sur l'enseignement des maths. Par exemple, est-ce qu'il faut apprendre les quatre opérations tôt dans la scolarité ou est-ce qu'il faut progresser à mesure? Et c'est très compliqué, même pour les spécialistes. Parce qu'une fois, on nous dit que non, il ne faut pas du tout aller trop vite. Et puis, une autre fois, que la division, c'est vraiment bien de la connaître vraiment en CE2. Et ça change assez souvent.
Alors, je vais dégager en touche. Puisque tout à l'heure, on a dit c'est bien qu'il y ait des mathématiciens qui réfléchissent à l'enseignement. Et que ça n'est pas mon cas. Donc, si vous me demandez ce qu'il vaut mieux apprendre les quatre opérations en même temps ou progressivement, je vais vous répondre, je n'en sais rien.
Est-ce qu'on peut les découvrir par la manipulation, ces opérations ?
Bien sûr, la division, la multiplication, tout ça se manipule sans problème.
Est-ce que les mathématiques, parce que ça, ça a été beaucoup dit, mais je ne trouve pas beaucoup exploré dans les programmes, c'est une question de langage. Et là, vous allez me dire que oui, Stella Baruch, par exemple, grande mathématicienne et didacticienne, a beaucoup travaillé sur cette question. Et pour plonger souvent le nez, enfin pas très souvent, mais ça m'arrive, dans des manuels de primaire, on voit que cette question du langage, elle ne concerne pas que les mathématiques. En fait, dans toutes les disciplines, ça jargonne pas mal.
Bien sûr, bien sûr.
Comment on peut se sortir de ça ?
Alors là, c'est une question quasiment philosophique que vous posez, puis aussi historique. Certains disent que la mathématique n'est qu'un langage, rien de plus. Et d'autres disent que les mathématiques sont un langage qui permet d'accéder au monde des mathématiques. C'est un peu différent. Et puis, le côté jargonnant, vous avez raison. Je vais vous donner un exemple. Un jour, ma petite fille me dit, comme ça, en parlant, va chercher le pavé droit. Mais quoi ? Comment tu sais pas ce que c'est qu'un pavé droit ? De mon temps, on appelait ça un parallélépipède rectangle. Donc le vocabulaire à l'école primaire a changé. Et pour dire un cube, enfin un parallélépipède, comme on utilisait de mon temps, qu'on dit encore aujourd'hui on dit un pavé droit. Est-ce qu'on y gagne? Pas sûr. Même des mots simples, je vous donne un exemple très simple, le mot « cercle ». Si vous regardez dans les manuels d'école primaire du début du siècle, il y a une confusion mais volontaire entre le cercle, qui est le bord, et le disque qui est à l'intérieur. Aujourd'hui, en mathématiques, quand on veut être correct et employer les bons mots, le disque, c'est à l'intérieur du cercle. Et le cercle, c'est la courbe qui en fait le bord. Mais qui, dans la rue, parle du disque? Personne. On dit le cercle. Donc il y a une espèce d'habitude d'utiliser le langage de manière un peu abusive. Et tout ça est un peu complexe, mais c'est un peu normal qu'on la langue n'est pas toujours aussi précise. C'est bien qu'elle ne soit pas complètement précise, la langue.
Mais est-ce qu'il faut qu'elle soit stable? Parce que vous avez parlé de pavé droit, parce que c'est ça m'angoisse, en fait. Je n'ai pas encore croisé le pavé droit, mais je ne l'ai pas vu. Mais c'est vrai que par parallélépipède, c'est compliqué.
Oui.
En même temps, si c'est un parallélépipède pour tout le monde et que tout le monde est d'accord...
D'un autre côté, le vocabulaire évolue au fil du temps. C'est normal. On n'a pas les mêmes terminologies aujourd'hui pour les fonctions, les dérivés, etc., que vous avez peut-être appris au lycée.
Oui.
Il faut que ça évolue, tout ça. C'est normal.
Donc cette histoire de langue, c'est plutôt quelque chose à dédramatiser.
Oui. Alors il y a une chose qui me semble.
C'est ça que je cherche à savoir.
Oui.
Ou est-ce qu'il faut lever ce blocage et comment?
Il y a une chose qui me semble vraiment très très importante et que les profs de maths disent partout dans toutes les classes de France et de Navarre, c'est que on ne peut pas faire de mathématiques, on peut pas faire un exercice, on peut pas faire un devoir sans qu'il soit écrit dans une langue comme le français par exemple. On peut pas demander aux élèves de ne pas s'exprimer en français. Voilà pourquoi le français a aussi un rôle capital dans l'enseignement. Je raconte d'ailleurs dans mon livre, je raconte cette anecdote, que quand j'étais en classe de première, moi j'étais bon en maths, vous pouvez l'imaginer,
oui.
Et en classe de première, j'avais un devoir à faire à la maison, et je me dis, je vais faire parfait, je vais rédiger mon devoir sans employer un seul mot. Et je rédige mon devoir qu'avec des formules. Il était parfait, mon devoir. Je rends ça à mon professeur, et le professeur me convoque, il me dit, t'as pas compris, Étienne, quand on écrit, c'est pour être lu. Ce que tu as écrit, c'est illisible. Donc il faut absolument que, quand on écrit des mathématiques, il faut toujours penser à qui va le lire, et il faut que ça soit écrit dans une langue qui n'est pas constituée de formules. Il faut que ça soit écrit, ça peut être de l'anglais, du français, tout ce que tu veux, mais écris-le de manière compréhensible. Et ça, c'est une chose qui est importante. Il faut que la langue soit compréhensible dans l'élocution et dans l'écriture des enfants.
Et on embête beaucoup hein, les élèves avec, enfin on les embête ou pas,
rédige.
Avec la démonstration qu'il faut rédiger. Il faut expliquer comment on a trouvé son résultat. Dans une interview, Étienne Gis, vous dites que si le système est en difficulté, le système scolaire, il y a quand même toujours des élites scolaire,
oui.
Et qu'en mathématiques ça va, même si elles s'érodent, hein, ces élites. Et vous dites quand même quelque chose, vous ne venez pas d'un milieu spécialement favorisé, et en étant professeur à Normale Sup, vous avez vu arriver les enfants de vos collègues. Oui. Il n'y a pas d'ascenseur, ou plus, encore moins qu'avant, en mathématiques, et d'ailleurs pas du tout une discipline qui favoriserait plus les élèves issus de milieux populaires que le français ou des oui. choses plus littéraires. En fait, c'est cette question du langage qui joue aussi, ou
sûrement,
alors
sûrement.
Parce que c'est une discipline de sélection.
C'est une discipline de sélection. Je suis le premier à dire que je m'en lamente. Moi, je fais des maths parce que j'aime bien faire ça. Je ne fais pas des maths parce que ça mène à des professions qui permettent de gagner beaucoup d'argent. Mais il n'empêche que je ne peux que regretter qu'encore aujourd'hui, les maths servent de sélection. Bien sûr, je le regrette.
Et vous trouvez ça triste, l'embourgeoisement des maths?
Bien sûr.
Parce que vous en parlez.
Mais évidemment, évidemment. Évidemment, c'est d'une grande tristesse. Et ce que vous dites sur les écoles normales supérieures est un fait objectif. Moi, j'ai travaillé à l'école normale supérieure de Lyon, où chaque année, on recrute, si je me souviens bien, environ une bonne vingtaine d'étudiants. Sur cette vingtaine d'étudiants, il y en a, je ne vais pas dire les bêtises, mais plus de la moitié sont des fils de profs. C'est pas normal, il y a quelque chose qui fonctionne pas.
Il faut quand même qu'on revienne à la formation des enseignants. J'avais préparé un petit son, on l'écoute ensemble. C'est une professeure des écoles.
Très bien. beau métier.
On m'a toujours dit que j'étais une littéraire et ça m'a toujours énervée en fait. Et donc j'ai fait des études dans lesquelles j'avais beaucoup de maths parce que je voulais montrer à tout le monde que j'étais capable d'avoir la moyenne et j'ai très bien réussi. J'ai commencé ma licence avec un niveau spé maths alors que j'avais fait ES. Et puis ensuite en arrivant à l'école, en devenant professeur des écoles, j'ai compris le sens du nombre, quelque chose que je n'avais jamais compris auparavant, parce que le fait de faire manipuler à mes élèves, le fait de passer par vraiment de la manipulation, quelque chose de concret, pour progressivement aller vers l'abstraction, c'est ça qui m'a permis de comprendre. En fait, j'ai appris un tas de choses, et j'ai aussi remarqué que j'ai commencé à enseigner avec un manque de confiance en mathématiques, et aujourd'hui, c'est l'une de mes matières préférées. Et je suis entourée de femmes, dans mon école, il n'y a pratiquement que des professeurs femmes, et elles ont, pour la plupart d'entre elles, cette même réticence vis-à-vis des mathématiques parce que elles se disent nulles, alors qu'elles s'enseignent parfois en CM1, en CM2, donc elles sont clairement pas nulles en maths, mais elles ont du mal à se faire confiance et ça, je trouve que c'est vraiment un enjeu.
Anna Gourdikian, qui est aussi créatrice de contenu, on l'avait reçue nous à la rentrée 2024, là elle est avec Fabienne Santès qui fait c'était dans le téléphone sonne. L'école primaire est-elle en échec scolaire du 20 mai 2025 à la rentrée 2026, donc pas celle-là, la prochaine. Une licence pluridisciplinaire préparatoire au professorat des écoles va voir le jour. Pluridisciplinaire, ça veut dire plus de maths dès le début, dès la première année d'études. Est-ce que voilà, vous en réjouissez ?
C'est une grande nouvelle.
Oui.
Pour moi, c'est une excellente nouvelle.
Voulez-vous permettre de le dire ? C'est votre opinion ?
C'est une très grande nouvelle parce que ça veut dire qu'on va former des professeurs des écoles qui connaissent un peu de géographie, un peu d'histoire, un peu de français, un peu de maths, tout ce qu'il faut pour former des élèves à l'école primaire. Je trouve ça absolument merveilleux parce que la professeure des écoles qu'on a entendue à l'instant, elle est remarquable, mais elle n'est pas typique. Puisque la majorité des professeurs des écoles n'ont pas eu cette formation mathématique initiale. Et là, je trouve que c'est une très bonne chose. Maintenant, il va falloir le mettre en pratique. C'est-à-dire que les universités vont devoir mettre en place des licences qui préparent les étudiants à ce beau métier qui est celui de professeur des écoles. Et c'est pas facile, puisqu'il va falloir trouver des professeurs d'histoire, de maths, de sciences. Et ça va pas être facile à mettre en place d'un point de vue purement universitaire. Mais on va y arriver. La question qui est encore en débat, qui est pas très claire encore, c'est que qui va piloter ces licences ? Est-ce que ce sont des licences qui seront plutôt prise en main par les universités ou plutôt prise en main par l'éducation nationale. Voilà, c'est encore en débat, c'est pas très clair dans mon esprit ce qui a été décidé par le ministère. Ça va être compliqué.
Mais ça fait longtemps que c'est dans les tuyaux. Il y a aussi la question de l'entrée dans le métier, l'année de
Bien
stage.
Sûr.
Comment se déroule-t-elle ? Avec quel accompagnement ?
Voilà, tout ça. Mais encore une fois, si on va dans ce sens, ça sera vraiment excellent.
Donc, mettre plus de maths dans la formation des enseignants. Pour le second degré, les contractuels vous posent aussi problème. Donc, il y a un petit sujet de formation continue, là aussi.
Évidemment. La formation continue est
insuffisante. On sait qu'elle ne va pas bien.
Elle ne va pas bien, bien sûr. Il n'y a pas beaucoup de formation continue. Il y a des grands besoins. Il y a des grands besoins, en effet. Et puis moi, ce qui me semble aussi qu'au niveau du collège, je dis toujours la même chose, je radote un peu, je vais vous le dire, c'est que je trouve que le contenu de l'enseignement mathématique au collège est trop strictement mathématique à mon goût, et que les ponts avec les autres disciplines, qu'il s'agisse des sciences ou même du français ou même de l'histoire, les grands nombres, quand un professeur d'histoire, il faut qu'il explique que c'est qu'un siècle, un millénaire. Il faut qu'il parle de l'âge de l'univers ou des choses comme ça. Il y a des besoins de ponts entre les disciplines qui ne sont pas suffisamment, à mon avis.
Pour donner du sens aux apprentissages.
Oui, tout à fait.
Mais
c'est compliqué. Hein, non, je ne dis pas que tout ça est facile.
L'interdisciplinarité, en tout cas pour l'école française, c'est extrêmement compliqué. Déjà, de recruter des professeurs semble extrêmement... extrêmement compliqué. Je voulais revenir un peu au livre avec vous. J'allais dire aux mathématiques, mais on n'arrête pas d'en parler. Vous dites que vous avez découvert, il y a assez peu de temps, la synesthésie. Alors la synesthésie, c'est le fameux poème, les parfums, les couleurs et les sons se répondent. Enfin, c'est pas tout ça le poème, c'est Baudelaire. Et puis, c'est dans Les Fleurs du Mal. J'ai plus le titre du poème, mais je vais le retrouver.
Correspondance.
Tout simplement. Alors, je me suis demandé si c'était si rare que ça. Vous dites que ça concerne une personne sur 20. Moi, par exemple, j'ai l'impression, je vois pas de couleur, mais je pense que les nombres pairs sont féminins et les nombres impairs masculins. Voilà. J'ai découvert que c'était pas tout le monde et que des chiffres sont amis, comme le 4 et le 7. Je pense qu'ils vont bien ensemble.
J'adore ce
genre de remarque. Vous avez des petits trucs comme ça, vous ?
Mais moi aussi, tout le monde. Et c'est un peu le but. C'est pour ça que le titre de mon bouquin, c'est Ma petite histoire des noms, parce que j'essaie de parler un peu de moi, de ce que je ressens personnellement. Et ce que vous me racontez colle parfaitement avec mon propos. C'est que vous, 4 et 7 sont des amis. C'est très bien. Je vous en félicite.
Je ne sais pas pourquoi.
Mais vous ne savez pas pourquoi.
Peut-être de la manière dont on les écrit. D'ailleurs, on n'écrit pas même les chiffres arabes, on ne les écrit pas pareil en France et aux États-Unis.
Tout à fait. Tout différent. Moi, j'aime bien ces petites associations auxquelles on n'aurait pas pensé au départ. Alors, la synesthésie, c'est quand même assez incroyable. Hein. Donc, il y a des gens qui voient les lettres ou les chiffres en couleur. Et c'est absolument indiscutable. Ou même, il y a parfois des gens qui ont un goût en fonction des chiffres.
Un goût dans la bouche.
Le 7 leur donne un goût amer, par exemple, ou le 4 donne un goût sucré. C'est tout à fait incroyable et c'est tout à fait mystérieux sur le fonctionnement de notre cerveau.
Est-ce que, Étienne Gis, vous voyez, quand on vous fait une belle démonstration, ou si vous voyez une belle équation, je ne suis vraiment pas mathématicienne, hein, mais est-ce que vous y voyez de la beauté ?
Bien sûr.
De l'ordre, de l'harmonie ? C'est important, cette esthétique.
Oui. Pour la plupart des mathématiciens, dont moi, c'est l'une des motivations profondes des mathématiques, c'est qu'on découvre un paysage que nous appelons beau ou élégant, même si cette beauté ou cette élégance n'est pas toujours ressentie par tout le monde. Mais en tout cas, dans la petite communauté des mathématiques ou des chercheurs en mathématiques, oui, il y a une vraie sensibilité à la beauté mathématique.
Est-ce que ça vous rassure ? Qu'est-ce que ça vous fait ? Qu'est-ce que ça produit en vous ?
Le mot est très simple, du plaisir. Tout simplement. Je crois que je n'aurais pas passé ma carrière à faire des maths si je n'avais pas eu du plaisir à le faire. C'est le truc principal.
Et en même temps, ça ne colle pas complètement avec cette idée que les mathématiques, c'est la vérité. Tout se démontre en mathématiques.
Non, pas tout.
Non, enfin pas tout, puisqu'il y a des suites comme celle de Syracuse qu'on n'a pas du tout réussi à démontrer. Mais dans les mathématiques scolaires, on enseigne des choses qu'on a pu démontrer. La suite de Syracuse, c'est vraiment génial. Si on divise un nombre pair par deux...
Vous l'expliquez ?
On va l'expliquer après, mais ce que je voulais vous dire, c'est que est-ce que les maths servent à lutter contre les fake news, la défiance, à travailler une forme d'esprit critique crois que 1 et 1 font 2 et 2 et 2 font 4. Même
moi,
si c'est pas mon personnage préféré de la littérature, Don Juan, ça, c'est du solide.
C'est l'une des raisons qui font que je me sens un peu à l'aise dans les mathématiques, c'est que précisément... on ne peut pas me rouler. Si on me dit quelque chose comme étant vrai, moi, Étienne, tout seul, je dois pouvoir m'en assurer, indépendamment de la personne qui me l'a dit. Et ça, je trouve ça assez extraordinaire. Et je pense que pour l'enseignement, c'est aussi assez fantastique, c'est que le professeur peut dire des choses à ses élèves, et les élèves peuvent le comprendre par eux-mêmes, indépendamment du fait que c'est le professeur qui leur a dit. Je prends un exemple très simple. Bien entendu, il y a de multiples façons de s'assurer de la vérité en histoire. Mais n'empêche que si le professeur dit que Marignan, c'est 1515, l'élève n'a, au niveau du collège, n'a pas de moyen de s'en assurer véritablement. Il faut, d'une certaine manière, ça marche par confiance. On va lui montrer des documents, des choses comme ça.
Mais on montre de plus en plus
de documents. Je ne suis pas en train d'attaquer l'histoire. C'est pas ce que je veux dire. Mais ce que je veux dire, par contre, c'est mon exemple favori, qu'on me critique souvent. Je trouve, j'aime beaucoup l'idée que si on explique à un élève pourquoi le théorème de Pythagore est vrai, il le comprend et il se l'approprie pour lui-même. C'est une vérité que Trump ne peut pas nier. Même pas Dieu, d'ailleurs. Il y a un philosophe grec qui disait que même Dieu ne peut pas changer le théorème de Pythagore.
Puisque, de toute façon, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des...
des carrés de l'autre côté.
De l'autre côté. Mais c'est parce que j'ai regardé des vidéos du prof rappeur et que j'en ai regardé plein. Donc j'ai bien révisé mon théorème de Pythagore. Et en même temps, ce qui est fascinant, donc je parlais de cette suite de Syracuse, je sais pas si vous pourrez arriver à bien l'expliquer. Moi, j'ai pris des notes, mais j'avoue que j'ai même du mal à les lire. C'est que, ben voilà, il y a des choses pas si compliqué comme ça, quand oui. On les dit, qu'on n'a pas du tout encore réussi à résoudre. Donc
c'est quelque chose d'assez étonnant, c'est que en mathématiques, il y a des questions simples qui n'ont pas de solution simple, à ce jour en tout cas. Et l'exemple de Syracuse, je trouve qu'il est assez facile à expliquer.
Alors c'est Syracuse aux États-Unis, c'est pas le Syracuse d'Archimède.
Ah non, c'est pas Archimède, non. Alors c'est l'histoire suivante, vous prenez partie d'un nombre... 5, par exemple. Alors, s'il est impair, comme c'est le cas avec 5, vous le multipliez par 3 et vous rajoutez 1, 3 fois 5, 15 et 1, 16, et il devient pair. Puis après, comme il est pair, vous le divisez par 2, ça fait 8. 8 est encore pair, vous le divisez par 2, ça fait 4, et par 2, ça fait 2, et par 2, ça fait 1. Vous voyez, on est parti de 5, et par ces opérations élémentaires, on s'est retrouvé à 1. Et ça marche avec n'importe quel nombre entier dont on part. Si je pars de 3... Ou si je pars de 3, 3,
on arrive
3,
toujours à 1, quoi qu'il arrive.
Et on arrive toujours à 1, quoi qu'il arrive, mais peut-être après des très, 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 très longs calculs. Et à ce jour, personne n'a été capable de démontrer l'affirmation que je viens de faire. Quel que soit le point de départ, on arrivera toujours à 1.
Ça rajoute du charme aux mathématiques.
Alors, on peut le voir de deux manières. C'est l'un des.
Il y a
un petit nombre de problèmes qui fascinent les amateurs. Moi, je reçois une solution de cette question au moins une fois par mois. Toujours fausse.
Parce que vous publiez des livres, les gens vous écrivent pour vous parler
de
ça ?
Oui, je reçois parce que ma position à l'Académie des sciences. Mmh. Donc les gens, ils pensent que je vais lire leur article, ils m'envoient un truc. Jusqu'après, je ne vais pas dire que ça sera toujours faux, mais jusqu'à présent, c'est faux. Et donc il y a une espèce de fascination pour cette question très simple. Alors vous allez me dire, à quoi ça sert ? À rien du tout. Peut-être à se faire plaisir, à jouer avec les nombres, à jouer. Mais on peut aussi penser qu'il y a des problèmes plus sérieux qui ressemblent un peu à ça et qui, pour le coup, sont très importants. Quand on écrit un programme d'ordinateur, c'est quelques lignes qui expliquent comment l'ordinateur doit calculer, doit fonctionner. Puis après, sur le bouton, on commence à faire tourner le programme. Quelquefois, le programme fonctionne et puis à un moment, stop, il a fini son calcul. Puis quelquefois, il tourne en boucle et il sort jamais. Il tourne en rond. Et donc la question qui se pose est de savoir si un programme d'ordinateur, quand on va le lancer, est-ce qu'il va se terminer ? Est-ce qu'il va terminer son calcul ? C'est un peu comme le problème de Syracuse. Et ça, ce sont des questions fascinantes qu'on ne peut pas tout à fait résoudre, en fait.
Et c'est aussi une forme de beauté, peut-être d'élégance de la vie. Est-ce que c'est important de savoir compter alors que des machines peuvent le faire à notre place, sur votre montre connectée, par exemple, ou mon téléphone?
Bon, j'ai une montre connectée, mais je ne l'ai pas mise aujourd'hui parce que ça me gêne. Je préfère ma montre avec des chiffres romains.
Des chiffres romains.
Tout à fait.
Ça aussi, c'est compliqué, les chiffres romains.
Alors, non, mais écoutez, je crois que je le dis quelque part, on ne va pas arrêter de faire de la randonnée en montagne parce que le TGV existe. Il faut quand même qu'on puisse compter des petites additions quand on va faire des courses.
On parlait d'intelligence artificielle la semaine dernière et on se posait un peu les mêmes questions. Alors, vous l'avez rappelé, Étienne Gis, vous êtes membre perpétuel, c'est ça ?
Secrétaire perpétuel. Ça veut dire que je suis ni secrétaire ni perpétuel.
Personne n'est vraiment perpétuel. De l'Académie des sciences. Académie des sciences qui a donc lancé une consultation sur l'éducation.
En 2025, l'Académie des sciences lance une grande consultation d'envergure nationale pour imaginer ensemble l'école de demain. L'ambition de ce projet est de proposer des réformes structurelles qui permettent à l'école d'être plus agile, plus au service des acteurs de terrain et de lui permettre d'honorer sa promesse républicaine, faire grandir tous les jeunes et les faire grandir ensemble. L'objectif est de faire remonter les initiatives de terrain, celles qui sont transformatrices pour l'école, et de montrer aux médias, à l'opinion publique et aux décideurs politiques qu'une autre école est possible si on fait confiance à ceux qui la font au quotidien.
Laure Saint-Raymond, membre de l'Académie des sciences, professeure à l'Institut des hautes études scientifiques à l'École normale supérieure de Lyon, et également, donc c'est un projet citoyen en faveur de l'école, c'est comme ça que c'est formulé sur le site de l'Académie des sciences. Quel est-il ce projet? Le mot de rêve est prononcé, rêvons-la ensemble, à l'école du futur. Qu'est-ce que...
C'est bien de rêver.
Oui, c'est bien de rêver, mais au-delà de ça, c'est un appel à projet. Qu'est-ce que
voilà,
vous voulez faire?
Donc, dans un premier temps, Laure Saint-Raymond a réuni une trentaine de personnes qui ne sont pas des administratifs. Il y a toutes sortes de personnes. Et pour dire qu'est-ce que vous aimeriez, comment pourrait être l'école dont vous rêvez? Il y avait toutes sortes de gens. J'ai participé à cette réunion. C'était assez riche, avec des expériences très différentes. Et ensuite, dans un deuxième temps qui commence maintenant, il s'agit, alors elle n'aime pas quand je dis ça, Laure Saint-Raymond, mais un peu comme les cahiers de doléances. On va faire des tours un peu dans plein d'endroits de France et de Navarre. Pas forcément dans des écoles, d'ailleurs dans des cafés citoyens ou toutes sortes d'endroits possibles, où on essaye de demander aux gens, mais qu'est-ce que vous attendez de l'école? Mais c'est pas forcément, d'ailleurs, on n'est plus du tout dans le domaine des maths, hein, c'est vraiment... Qu'est-ce qu'on veut pour l'école de notre pays? Et une fois que toutes ces réunions auront eu lieu, il s'agit ensuite d'en faire une synthèse et qui sera rendue publique en 2027. Et vous voyez qu'il se passe des choses en 2027. C'est peut-être
apparemment
l'occasion.
Et voilà. D'ailleurs, d'autres consultations. D'ici là, il y a une consultation sur le temps de l'enfant.
Oui, mais attendez, la consultation sur le compte de l'enfant, c'est une consultation
citoyenne.
Du gouvernement.
Oui. Et alors que vous, c'est indépendant.
Justement, on a fait en sorte de rencontrer la ministre de l'Éducation nationale, on a rencontré les gens qui sont dans les ministères en charge de l'éducation, mais on leur a dit très clairement qu'il s'agit de faire quelque chose qui est indépendant.
Mais est-ce que concernant, par exemple, l'enseignement des maths, l'opinion des citoyens vaut celle d'un enseignant de mathématiques qui voit des élèves au collège tous les jours, ou d'une professeure des écoles?
Vous posez bien sûr une bonne question, mais oui. Le projet de Laure Saint-Raymond va au-delà. C'est quelque chose de tout à fait global. On ne va pas dire qu'est-ce que vous pensez des maths, de la physique.
Non, mais vous voyez bien où je veux en venir. C'est-à-dire que l'école, c'est aussi l'école des 1 million de personnes qui travaillent auprès des élèves, qu'ils soient professeurs ou non.
C'est aussi
l'école des élèves et des parents. Après, l'opinion de personnes qui sont sorties de l'école il y a 50 ans, par exemple, est-ce qu'elles intéressent encore l'école d'aujourd'hui?
C'est une bonne question. Maintenant, les profs aussi ne sont pas très souvent consultés. Hein, et ils seront consultés dans le cadre de cette opération. Donc c'est une opération très large qui n'a pas l'intention d'écrire des programmes, hein, rassurez-vous. Hein. Il ne s'agit pas de rentrer dans ce genre de détails en particulier. C'est avoir une vision globale de qu'est-ce qu'on veut de notre école républicaine.
Est-ce que l'Académie des sciences est un endroit où on est plus audible pour porter cette parole?
Plus qu'ailleurs, peut-être.
Peut-être, je sais pas, des syndicats, des collectifs citoyens. Enfin, il y a beaucoup de gens qui s'expriment sur...
Bien entendu. C'est un peu dans nos missions. Alors donc, on en profite pour le faire, quoi.
Est-ce que vous pensez que l'Académie des sciences et l'Académie française, par exemple, parce que c'est au même endroit, mais c'est pas les mêmes personnes, évidemment, vous portez un peu les mêmes visions ou pas du tout?
Je pense qu'elles sont différentes.
Moi aussi, je pense qu'elles sont différentes. Et c'est en vous parlant que je me disais ça.
Je pense qu'elles sont différentes, en effet.
Merci beaucoup. On n'en dira pas plus, Étienne Gis. Ma petite histoire des nombres est publiée chez Audi Jacob, comme ma petite histoire du ballon de foot et la petite histoire des flocons de neige. Si jolie, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour ce numéro d'Être et Savoir. À bientôt.